Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 4 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. La France va très probablement réduire les effectifs de sa force anti-djihadiste. Barkhane, au Sahel, si l'on en croit la ministre française des armées, Florence Parly a dénoncé les méthodes pernicieuses des djihadistes. Après la mort de 5 soldats français au Mali, nous serons très probablement amenés à ajuster ce dispositif. Un renfort par définition, c'est temporaire, a déclaré la ministre française dans une interview au quotidien Le Parisien ce lundi, après le renfort de 600 soldats qui a porté les effectifs de Barkhane à 5100 hommes en 2020. Une décision sera prise à l'occasion du prochain sommet conjoint de la France et des pays du G5 Sahel en février à N'Djamena, a dit Florence Parly. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris dimanche leurs négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil construit par Addis Abeba et ont convenu de les poursuivre dans les prochaines semaines, a indiqué le ministère soudanais de l'irrigation. Les derniers pourparlers qui se sont tenus par visioconférence début novembre s'étaient conclus sans avancer, les négociations étant dans l'impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Addis Abeba, qui juge le grand barrage de la Renaissance, garde essentielle à son développement, y est réticente et soutient que l'approvisionnement en eau de ces pays ne sera pas affecté. Au moins 11 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud-est du Tchad, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés, a indiqué dimanche à l'AFP le gouverneur de la province. Les affrontements se sont déroulés vendredi et samedi dans la province de Salamat après que les bovidés d'un éleveur ont dévasté un champ. Pendant que les cultivateurs amenaient les animaux dans un enclos, les éleveurs ont attaqué. L'Afrique du Sud, durement touchée par la deuxième vague de la pandémie, le coronavirus espère obtenir ses premiers vaccins en février, mais le calendrier dépendra du résultat de négociations en cours avec plusieurs entreprises pharmaceutiques, a annoncé dimanche le ministre de la Santé. Ces dernières semaines, le gouvernement sud-africain a essuyé des critiques, notamment d'experts de la santé dans le pays, pour avoir tardé à se lancer dans le processus d'obtention de vaccins contre le COVID-19. La justice égyptienne a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur la mort, faute d'oxygène, de 4 patients atteints du COVID dans une unité de soins intensifs qui a déclenché l'indignation sur les réseaux sociaux. L'hôpital d'Al-Husseinia est identifié dans les commentaires et le parquet égyptien a confirmé qu'il s'agissait bien de cet établissement. L'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec quelques 100 millions d'habitants, a enregistré plus de 140 000 cas de COVID-19, dont près de 7 800 décès. Ici aux États-Unis, Nancy Pelosi a été réélue dimanche à la présidence de la Chambre des représentants américaine. Lors de la première séance de la nouvelle session du Congrès, les démocrates conservent le contrôle de la Chambre, mais avec une majorité resserrée de 222 sièges, seulement sur 435, puisqu'ils ont perdu 11 sièges lors des élections de novembre. Le Sénat, lui, demeure pour l'instant aux mains des Républicains, en attendant les deux élections qui se tiendront demain mardi en Géorgie. Le président américain Donald Trump a fait pression sur le principal responsable des opérations électorales de Géorgie pour tenter d'obtenir qu'il modifie en sa faveur le résultat du scrutin présidentiel du 3 novembre dans l'État, selon un enregistrement d'une conversation téléphonique que s'est procuré le Washington Post. Le Washington Post a mis en ligne dimanche des extraits de cette conversation d'une heure entre Donald Trump et Brad Raffensperger, le secrétaire d'État de Géorgie, en précisant que le président avait successivement flatté, imploré et menacé ce responsable républicain. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, 100 morts dans l'attaque de 2 villages au Niger, les militants du MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto, devant la justice camerounaise ce lundi, ils avaient pris part à une marche le 22 septembre dernier, et puis après l'espoir, la Centrafrique, une autre offensive des rebelles, alors que le pays attend les résultats de la présidentielle du dimanche 27 décembre. Jean-Roger Billon, nous sommes le lundi 4 janvier 2021. On revient sur ces nouvelles dans un instant. Je rappelle que nous émettons de Washington. À tout à l'heure. La suite de nos informations en ce lundi 4 janvier 2021. Au Niger, 100 civils ont été tués le 1er janvier dernier par des hommes armés. Le massacre s'est produit simultanément dans deux villages de la région de Tillabéri, à la frontière avec le Mali. Les assaillants seraient venus du Mali. Les autorités étaient ce dimanche sur les lieux du drame. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Accompagné des responsables de la hiérarchie militaire, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est rendu ce dimanche sur les lieux du massacre.
Nous avons eu un bilan désastreux, puisque dans ce village de Tchambangou, on aura certainement perdu 70 personnes, tandis qu'une trentaine de personnes ont été assassinées dans le village de Zaroum-Béré, ce qui fait 100 personnes. C'est tout simplement horrible comme situation, commise par des individus dont on ne sait pas, on n'arrive pas à avoir l'identification, mais des enquêtes vont être diligentées pour que ce crime ne soit pas laissé impuni.
Déjà, les survivants de ces deux villages ont commencé à fuir pour des zones qu'ils jugent plus sûres. Le chef du gouvernement a promis un renforcement du dispositif sécuritaire de la zone pour les faire revenir. Pour rappel, les deux villages victimes de ces attaques simultanées ne sont pas loin de celui de Tongo Tongo où les 4 soldats américains avaient été tués en octobre 2017. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Cameroun, une trentaine d'opposants comparaissent aujourd'hui devant un tribunal militaire. Il s'agit des militants du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, interpellés lors des marches du 22 septembre 2020 visant le départ du pouvoir du président Paul Biya, accusé de n'avoir pu mettre un terme à la crise anglophone et réviser le système électoral. À Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Julintap.
Le procès qui s'ouvre ce jour concerne 32 militants du MRC, dont l'âge varie entre 20 et 62 ans. Ils vont comparaître devant le tribunal militaire de Bafoussam, à plus de 328 km de Yaoundé, à l'ouest du Cameroun. 28 des militants comparaissent libres ou sous garant, et 4 autres sont sous mandat de détention provisoire à la prison de Bafoussam. Selon Maître Hippolyte Méli, qui coordonne le collectif d'avocats qui défend ses militants, ces derniers sont poursuivis entre autres pour tentative d'insurrection en coaction, outrage au président de la République, conspiration d'insurrection et tentative de manifestation publique non autorisée. Ce procès vise à brimer le libre exercice des droits fondamentaux constitutionnels de ces personnes, a dénoncé dans un communiqué le collectif d'avocats du MRC. D'après le leader du MRC Maurice Kamto, 556 personnes ont été arrêtées lors des marches pacifiques du 22 septembre dernier. 137 sont encore en prison, parmi lesquelles 112, tous des civils, qui comparaissent devant les tribunaux militaires. Le 8 décembre dernier, le gouvernement a annoncé que les personnes encore aux arrêts seront relâchées au fur et à mesure de l'évolution des procédures judiciaires et en considération de leur degré d'implication et de la menace qu'ils représentent pour la société. Selon le code pénal camerounais, les auteurs d'actes terroristes ou d'appels à l'insurrection courent un emprisonnement de 10 à 20 ans, voire une peine de mort. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Lutte contre le coronavirus dans le monde, les campagnes de vaccination s'accélèrent, notamment aux États-Unis et en Allemagne. L'Afrique du Sud espère les premiers vaccins en février. Claire Morin-Givou.
Sur le continent, alors que le Zimbabwe a annoncé un nouveau confinement sur l'ensemble du territoire face à une recrudescence des cas, l'Afrique du Sud espère obtenir ses premiers vaccins dès février, même si les négociations avec plusieurs entreprises pharmaceutiques sont toujours en cours. L'Égypte a autorisé le vaccin chinois de Sinopharm et veut acheter 40 millions de doses. Sinopharm a annoncé mercredi que son vaccin, qui doit être diffusé en Chine et dans les pays en voie de développement, est efficace à 79%. À Gibraltar, un nouveau confinement de 2 semaines est imposé depuis samedi en raison d'un doublement des cas. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a évoqué hier des restrictions encore plus sévères, incriminant l'impact du nouveau variant du virus plus contagieux. Aux États-Unis, la campagne de vaccination monte en puissance et pourrait atteindre 1 million d'injections par jour, ont assuré hier des responsables sanitaires. Le pays vient de franchir la barre des 350 000 morts.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec John Lindon.
Après la nationalisation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, alors sous l'enseigne des Veolia, le gouvernement, selon Financial Afrique, annonce une nouvelle stratégie de développement imputant la léthargie actuelle à cette multinationale française. L'offre en eau potable et en électricité pourrait substantiellement croître pour des Gabonais à travers la mise en œuvre du plan stratégique de développement qui prévoit des investissements de plus de 300 milliards de francs CFA à l'horizon 2023 dans la production, le transport, la distribution et la commercialisation dans des deux secteurs. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain devrait continuer de payer ce 4 janvier 2021 à ses créanciers un montant global net d'impôt de 2684 milliards de francs CFA, représentant les intérêts semestriels et le remboursement partiel du capital de deux de ses emprunts obligatoires. Le New York Stock Exchange annonce le retrait prochain de la bourse de 3 sociétés chinoises des télécoms. Il s'agit pour lui de se conformer à un décret présidentiel interdisant les transactions sur des entreprises accusées d'être mêlées au développement du complexe militaire chinois. Les 3 sociétés en question sont China Mobile Communication, China Telecommunication Corp et China Unicom.
À présent, la page des sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jean-Roger et bonjour à tous.
On parlera essentiellement de football ce lundi. Dans 2 semaines débutera le championnat d'Afrique des Nations. Mais en attendant, un mini-tournoi a été organisé au Cameroun.
Oui, et 4 nations y participent. En ouverture, le Cameroun a été contraint au nul 1-1 par l'Ouganda. Match nul également, mais cette fois 3-3 dans la seconde opposition entre le Niger et la Zambie. Prochaine journée ce lundi, le Cameroun va essayer de prendre le meilleur sur le Niger. Mais avant, l'Ouganda fera face à la Zambie. Le châle réservé aux joueurs locaux s'ouvre le 16 janvier prochain avec le match inaugural entre le Cameroun et le Zimbabwe.
Justement, et à 2 semaines de ce match d'ouverture, la participation de la sélection zimbabwéenne risque d'être compromise.
Tout à fait. En effet, la fédération zimbabwéenne a annoncé que 9 des 23 joueurs retenus pour préparer la compétition, en plus de 5 membres du staff, ont été testés positifs au coronavirus à leur retour d'un stage. Tout le monde est placé à l'isolement et leur guérison risque de prendre du temps. Tous les entraînements programmés ont été annulés jusqu'à nouvel ordre, ce qui va sérieusement compliquer la participation des Warriors. À signaler que le Zimbabwe joue le Cameroun en match d'ouverture du tournoi le 16 prochain à Yaoundé.
Élisée, après le Cameroun, c'est au tour du Rwanda d'abriter aussi une compétition similaire.
Exactement, Jean-Roger. Et ce sera du 7 au 11 janvier 2021. Le Rwanda, la Namibie et le Congo vont se rencontrer au stade Amoureux de Kigali. Les 3 sélections vont se servir de cette compétition pour faire les derniers réglages avant le début du CHAN prévu pour le 16 prochain. Le Congo est dans la poule B avec la RDC, la Libye et le Niger. Le Rwanda dans le groupe C avec le Maroc, le Togo et l'Ouganda. Et puis la Namibie partage la poule D avec la Guinée, la Tanzanie et la Zambie.
On parle à présent des matchs retour du 2e tour préliminaire des interclubs de la CAF qui se joue demain mardi et mercredi.
Et en Ligue des Champions, déjà demain, l'ASV Club de Kinshasa recevra les Young Buffaloes de l'Eswatini. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns offriront leur hospitalité aux Botswanais de Douaneng Galaxy. Et puis à Casablanca, le Raja reçoit Tengut du Sénégal. Toujours ce mardi en Coupe CAF, les Burkinabés de Salitas vont essayer de confirmer leur victoire du match aller face aux Soudanais dans la Mal Atbara, tout comme les Sud-Africains d'Orlando Pirates contre les Angolais de Sagrada. Et puis, les Nigériens de la Gendarmerie nationale, de leur côté, vont essayer de limiter les dégâts à Alger face à JS Kabylie, qui les avait déjà battus à domicile à l'aller.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. En République centrafricaine, alors que toutes les oreilles sont tournées vers l'autorité nationale des élections, pour connaître les résultats globaux et partiels de la présidentielle du 27 décembre dernier, la situation sécuritaire du pays se dégrade davantage. Les rebelles de la CPC ont lancé des offensives sur certaines villes tenues par les forces loyalistes. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
En principe, c'est ce lundi 4 janvier que l'autorité nationale des élections publiera les résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre dernier. Pendant que les centrafricains sont impatients de connaître le nouveau président, des voix se sont élevées au sein de la classe politique pour dénoncer des fraudes massives et demander l'annulation de ces élections. Bernard Dila, directeur de campagne de Martin Ziguéré, un des candidats à la présidentielle.
Il y a plusieurs bavures inacceptables. Nous commençons par citer le refus systématique de mettre à la disposition des représentants, des candidats, des copies de procès verbaux. Et je crois que ça entache la crédibilité de ces élections-là. Nous avons déjà des doutes. Nous en avons des preuves et nous mettons ces informations à votre disposition pour que le peuple puisse en être informé avant que des procédures soient engagées pour saisir la Cour constitutionnelle.
La CO2 2020, la plateforme de l'opposition, avait déjà formulé cette demande d'annulation et de la reprise de ces élections, demande qualifiée de non-événement par le MCU, le parti politique du président Faustin Archange Touadéra. Ces centrafricains que VOA Afrique a rencontrés à Bangui veulent rien que la paix, quelle que soit l'issue de ces élections.
Nous demandons que ceux qui vont être à la tête de ce pays nous amènent la paix. Nous, les jeunes, nous demandons la paix parce que sans la paix, on ne peut pas avancer, le pays ne peut pas avancer.
Nous voulons juste la sécurité, que notre pays soit calme en 2021.
L'année qui vient de passer, ça va bien passer. Nous souhaitons que l'année 2021, ce soit une année de paix et de la réussite pour tout le monde.
Sur le terrain, la situation sécuritaire reste tendue. Les rebelles de la coalition des groupes armés ont attaqué samedi et dimanche la ville de Damara, à 76 km de Bangui, et celle de Bangassou, dans le sud-est. Les combats d'une violente intensité ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Dans la capitale, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé que le pays est en guerre et a promis de tout faire pour protéger les centrafricains, quelle que soit l'issue des élections du 27 décembre.
Le pénible devoir de vous dire que nous sommes en guerre. La République est en guerre. Sa survie est menacée. Le gouvernement de la République emploiera tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs regroupés au sein de la CPC. Le peuple centrafricain a trop souffert. Le sang du peuple a trop coulé. Il est temps de mettre définitivement fin à cette spirale de violence aveugle. Quelle que soit l'issue du scrutin présidentiel, j'agirai jusqu'à la fin de mon mandat pour vous protéger et protéger notre pays contre les démons de la haine, de la méchanceté, de la rancœur et de la prédation.
Pour le moment, la présence des hommes armés signalés aux alentours de Bangui inquiète les Banguissois qui craignent des violences dans la capitale. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Il y aura un second tour à l'élection présidentielle au Niger. Aucun des candidats en lice lors du premier tour, qui s'est déroulé le 27 décembre dernier, n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, selon les résultats proclamés samedi par la CENI. Le second tour opposera en février le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, au premier président démocratiquement élu de l'histoire du Niger, Mahman Ousmane. Les deux ont respectivement obtenu 39 et 17% des voix. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Bazoum Mohamed.
Réagissant au résultat qu'il a obtenu, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a parlé de score fabuleux.
Je me réjouis de ce soutien massif que vous m'avez témoigné de façon uniforme sur l'ensemble du territoire national. Avec un vote aussi fort, vous avez fait l'option d'une victoire annoncée pour le scrutin du second tour programmé pour le 21 février 2021. En donnant presque la majorité parlementaire à notre seul parti, vous avez clairement indiqué qui exercera le pouvoir pour les 5 prochaines années.
Du côté du candidat Mahamane Ousmane, arrivé deuxième, on est également satisfait des résultats, même si certains vont être contestés. Moustapha Barké, de la direction de campagne du candidat Mahamane Ousmane.
Nous allons introduire des recours à la nation au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que il y a des incohérences flagrantes qui défient l'entendement. Des endroits où des vols ont été perpétrés d'une et tout, des attaques, mais on nous a sorti des résultats. Mais c'est pas possible, ça, on est obligé d'introduire des recours pour ça. Il y a une nouvelle élection qui se profile, le 21 février, Inch'Allah. Et donc, nous entamons ce deuxième tour avec beaucoup de sérénité.
Dans l'ensemble, le double scrutin du 27 décembre s'est bien déroulé, ce qu'apprécient quelques citoyens.
Malgré tout ce qui l'a caractérisé, toutes les insuffisances que nous avions connues, c'est l'un des rares processus, en tout cas vraiment en Afrique de l'Ouest, qui ont été caractérisés par une certaine facilité. Je pense que cela va permettre au Niger, n'est-ce pas, d'être désormais un donneur de leçons.
De ma part, le résultat a été quand même bien. Parce que les gens ont attendu à ce qu'on proclame les coups KO. Et nous, nous sommes surpris aujourd'hui qu'il y aura le deuxième tour.
Même Omar Ousmane a su apprécier sur son compte Twitter. Donc les résultats, sans pouvoir parler de contestation, donc les résultats sont acceptables.
A noter que les législatives pour lesquelles les électeurs étaient également appelés aux urnes dimanche dernier, c'est le parti au pouvoir qui est en tête avec près de la moitié des sièges au futur Parlement. Le second tour de la présidentielle est prévu selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante le 21 février prochain. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé dans son message à la nation le 31 décembre dernier qu'il n'y aura plus de remous sociaux dans le secteur public. Son gouvernement s'attelle à satisfaire les derniers points du protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux. Il a pris également des mesures restrictives pour faire face à la recrudescence de la pandémie du COVID-19 ces derniers temps à N'Djamena. Les détails avec André Kodmajinga, correspondant de VO Afrique.
Dans son adresse à la nation, le chef de l'État s'est félicité de la mise en œuvre progressive de l'accord signé en janvier 2020 avec les partenaires sociaux. À cette date précise, le président Déby, tous les points de cet accord sont traduits en actes et les 15% d'augmentation générale spécifique seront régularisés d'ici 2021. Le processus de régularisation des effets financiers, des avancements et reclassements est sur la bonne lancée et il en appelle au bon sens des partenaires sociaux.
J'encourage vivement le gouvernement et la plateforme syndicale à privilégier le dialogue et à signer au plus vite un pacte social triennal. Car les grèves à répétition influent négativement sur la performance de l'administration publique.
Une déclaration mal perçue par les travailleurs du secteur public.
C'est un pacte social avec le gouvernement. À l'heure où je vous parle, c'est signé l'acte de décès de tous les travailleurs.
Blaise Ngarkoïdé, secrétaire général du syndicat des anciens du Tchad.
Qu'est-ce qu'il en dit du titre de transport de 2019 qui n'est pas payé?
Aujourd'hui, on se retrouve avec des enseignants suspendus. Donc, nous avons toute une liste de revendications cette année. Ça veut dire qu'au niveau de la base grogne.
Rougounou, Vaima, Gamfar et secrétaire général de l'UST, l'Union des syndicats du Tchad, le pacte social ne peut être signé que si les autres points de l'accord de janvier 2020 sont appliqués.
On ne signera ce pacte qu'à condition que les transports qui restent, les gels des effets financiers, des avancements et des rechassements soient exécutés et les 15% de ce janvier-là qui concerne les AGS soient appliqués. Parce qu'on ne peut pas signer un accord d'exécuter en partie et demander au travers une autre bonne volonté.
Juste après son message à la nation, le maréchal Idriss Déby Itno a signé un décret portant confinement total de la ville de N'Djamena. Selon Kalzebe Paimidebe, coordonnateur de l'action gouvernementale, personne ne peut sortir de chez lui à l'exception de ceux qui travaillent dans les services et exercent dans les activités ci-après.
Les centres de santé, les cliniques privées, les hôpitaux, les boulangeries, les pharmacies, les étals, commerces et transports de produits alimentaires, les services pompiers, les services d'eau, et d'électricité, les hôtels et les vols cargo.
Tous les établissements scolaires et universitaires publics et privés, les lieux de culte, les grands marchés, les bars, alimentation et restaurants sont fermés. Une décision diversement appréciée dans la rue de N'Djamena.
Confinement, c'est bon par rapport à notre santé, mais malheureusement, c'est très brusque.
Ils n'ont même pas averti, maintenant, il n'y a même pas de marché.
Ces mesures, moi, je l'accompagne. Et si d'ici une semaine, les choses ne vont pas encore, on peut durcir.
La population des cas travaille dans le secteur informel. Et il faut alléger un peu les mesures.
Cette mesure restrictive s'explique par le fait que N'Djamena a enregistré en moins de deux mois plus de 400 cas confirmés de COVID-19. Le relâchement dans l'observance des mesures barrières par la population serait à l'origine de la recrudescence de la courbe épidémiologique de coronavirus dans la ville de N'Djamena. André Koduma Dingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
Au Mali, un hommage a été rendu à Soumaïla Cissé par des personnalités maliennes et étrangères, des amis et des anonymes. Ils étaient réunis autour de la dépouille de l'illustre disparu par milliers vendredi à Bamako. C'était dans un rare moment de concorde pour rendre un dernier hommage à Soumaïla Cissé, grande figure politique décédée du COVID-19 à Paris le 25 décembre 2020. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
La cour du palais de la culture Amadou Ampatiba, dans laquelle étaient exposés les cercueils drapés du drapeau malien, n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde. Boubacar Cissé, fils aîné de Soumaïla Cissé, a donné le ton des hommages.
Papa, tu es un homme exceptionnel, un homme de Dieu. Que la terre te soit légère. Nous sommes battus bec et ongles pour ta libération. Tu nous es revenu 6 mois et 13 jours après. Comment pouvons-nous imaginer que tu allais nous quitter juste 2 mois et 13 jours après? Eh oui, comme si tu étais revenu juste pour faire tes adieux. Je tiens aussi à demander pardon au nom de mon père à tous ceux qui l'auraient pu offenser, de près ou de loin.
Soumaïla Cissé était un éminent personnage politique pour avoir été 3 fois candidat malheureux au second tour de la présidentielle. Professeur Salikou Sanogo, premier vice-président de l'Union pour la République et la Démocratie, IRD, parti de Soumaïla Cissé.
J'ai dit, président, s'il y a quelqu'un qui est très heureux de votre retour, c'est bien moi. S'il y a quelqu'un qui est soulagé, c'est bien moi. Parce que pendant 6 mois, pendant toute votre absence, j'étais aux avant-postes et je ne savais pas qu'il était aussi difficile de diriger un parti politique. Hélas, 2 mois après, il devait repartir, mais cette fois-ci pour toujours.
Avant de créer son parti, l'Union pour la République et la Démocratie, IRD, Soumaïla Cissé a été membre fondateur de l'ADEMA PASJ en compagnie d'un certain Boukar Treta, actuellement président du Rassemblement pour le Mali, RPM.
Pour moi, Soumaïla Cissé est un homme bien, un homme de bien, avec lequel j'ai cheminé tout le long de l'édification de notre parti d'origine. L'ADEMA
Chogel Kokala Maïga, membre du FSD, président du MPR.
Une des qualités de Soumaïla qui fait de lui un leader contemporain, c'est qu'il n'est pas un idéologue dogmatique. Soumaïla est un pragmatique. Il cherche des solutions concrètes aux problèmes concrets qui lui sont posés ou qui sont imposés par les circonstances de l'histoire et du moment. C'est pourquoi Soumaïla apparaissait de plus en plus et aux yeux de plus en plus de Maliens comme l'homme qui peut réconcilier les Maliens entre eux et avec leur histoire.
Les jeunes de l'IRD, à travers leur président, décident de continuer la voie tracée par Soumaïla Cissé. Djara, président de la jeunesse IRD.
Honorable Soumaïla Cissé, tu seras incontestablement l'absent le plus présent. Nous prenons ici l'engagement sincère d'honorer et de perpétuer ta mémoire, ton œuvre, notre œuvre. En tout et pour tout, nous ferons tout pour te ressembler. Adieu, président. Paix éternelle.
Son fils Boubacar Cissé affirme que même sur son lit de mort, Soumaïla a toujours gardé son sourire solidaire. Il dort désormais au cimetière de Sogonigo aux côtés de ses parents. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg avec vous. À votre avis, votre émission débat sur VOA Afrique est consacrée à vos espoirs pour 2021. Qu'attendez-vous de cette nouvelle année pour vous, votre famille et vos proches? Quelles sont vos résolutions? Qu'espérez-vous pour votre région ou votre pays ou pour votre équipe sportive? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons. À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en nom de Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.